Bonsoir. Nous accueillons ce soir, le Collège international de philosophie accueille ce soir Vladimir Safak, que je présente brièvement. Vladimir Safak est professeur de philosophie à l'USP, l'université de São Paulo. Il voyage beaucoup actuellement, mais avant il voyageait moins. Il a fait sa thèse à Paris, à Paris 8, qui a dû être soutenue dans les années 2008, quelque chose comme ça. 2000
2000.
Ah bon?
Ouais.
Bon, comme le temps passe. C'était sur Hegel et Lacan et Adorno. Depuis, il a beaucoup publié. Il a publié en 2010 un ouvrage qui s'appelle « La passion du négatif » chez Georg Holms International. La passion du négatif qui est précisément un texte écrit après sa thèse, qui porte en particulier et déjà sur la dialectique et le négatif en psychanalyse, la dialectique hegelienne et le négatif en psychanalyse. En 2016, il a publié un ouvrage qui s'appelle « Le circuit des affects ». Cet ouvrage existe actuellement en portugais, mais il a été traduit déjà en espagnol. Je crois qu'il paraît très prochainement en Colombie, chez un éditeur colombien, sous le titre espagnol « El circuito dos afectos ». La même année, il a publié chez Leuven University Press, dans la collection « Figures de l'inconscient », la collection ouverte par la Société internationale psychanalyse philosophie que nous avons cofondée justement avec quelqu'un de Louvain, qui est Philippe Van Rotter, qui dirige cette collection avec une brésiliano-française qui s'appelle Béatrice Santos. Donc 2016, Grand Hôtel Abyss, qui est une confrontation entre la pensée de la psychanalyse, la pensée hegelienne et les théories de la reconnaissance, en particulier dans l'école de Francfort de l'époque Adorno, mais aussi jusqu'à Axel Honneth et actuellement. Entre-temps, très actif politiquement dans le Brésil contemporain, il avait publié un petit livre qui s'appelait, je crois, si je traduis en français, « Une gauche qui ne craint pas de dire son nom ». Est-ce que j'oublie des choses importantes dans ta bibliographie ? Pour le moment, voilà. Ce soir, il nous présente un exposé sur la dialectique et le délire. C'est-à-dire que la question de la dialectique est toujours présente dans la réflexion de Vladimir Safak, mais il va la croiser ce soir avec la question du statut du délire chez Foucault et chez Hegel. Sa conférence sera suivie d'une discussion que j'essaierai de lancer et à laquelle vous êtes conviés. Voilà, Vladimir, à toi.
Bien, d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Merci de votre présence. Je présente dans la conférence que c'est une partie d'un travail un peu plus vaste. C'est mon dernier livre, bien sorti dans les mois prochains. Sur le sens contemporain, disons, de la récupération de la dialectique. Et là, j'aimerais commencer par un passage de Foucault dans l'histoire de la folie, où il dit le suivant, Désormais, la folie est exilée. Si l'homme pèse toujours être fou, la pensée comme exercice de la souveraineté d'un sujet qui se met en devoir de percevoir le vrai ne peut pas être encensée. Une ligne de partage est tracée qui va bientôt rendre impossible l'expérience si familière à la Renaissance d'une raison déraisonnable, d'une raisonnable des raisons. Bien, il est possible que vous ayez reconnu ce passage. Et voici un extrait de l'histoire de la folie de Michel Foucault, dans lequel il décrit le nouveau statut de relation entre raison et folie à l'âge classique. Foucault insiste sur le fait que Descartes exclut la folie de l'ordre des raisons, affirmant qu'une certaine modernité dont nous serions toujours contemporains serait solidaire de la réduction de la folie à la condition de maladie mentale, donc la condition d'un fait ontologiquement extérieur à l'exercice de la raison. Dans ce geste inaugural qui scellerait le destin des catégories de normal et de pathologique, le rapport profond d'exclusion entre l'exercice de la pensée rationnelle et ce qui lui apparaît comme différence et altérité serait décidé. Dans la scission ontologique entre raison et folie, nous retrouverions ainsi les noyaux de la violence de la raison, de son destin dramatique d'inversion continue dans des dynamiques de domination. Une violence liée à la définition de limites de l'expérience possible à partir des formes dont la validité sera maintenant définie a priori, de formes qui imposeraient la conformation de tous le sujet à, disons, un standard disciplinaire de normalité et de maturité qui ne manquera pas de produire de la souffrance et de l'aliénation. Exilée de la raison, la folie serait maintenant le dépôt des formes de pensée qui ne se soumettraient pas au mode des catégorisations, des représentations et d'unités, compris comme une condition exclusive de toute expérience sociale possible. Cependant, exilée de la folie, la raison ne pouvait assurer l'émancipation de sujets désormais incapables de le gérer, ce qui, de se rapporter à ce qui en soi ne conserve pas la forme d'un moi. Dans cette conférence, bien, j'aimerais essayer de raconter cette histoire d'une autre manière, car il s'agit de dire qu'une telle histoire connaîtra une tension intérieure plus dramatique. La relation entre la raison moderne et la folie sera plus ambiguë et plus tendue. Elle connaîtra des positions variables, des avancements et des reculs. Ce sera, disons, l'histoire de la reconnaissance d'une expérience qui, en réalité, n'a jamais été totalement exilée de la constitution de la raison. Une expérience dont la reconnaissance incitera à opérer par la raison à opérer par métamorphose des catégories. Mais pour avoir une vision plus étendue de cette histoire, il faudra ajouter un chapitre que Foucault saute, que Foucault néglige. Et ce chapitre, il passe par la récupération moderne de la dialectique. Car l'histoire de la dialectique apportera l'expression d'une écoute de la folie capable de modifier ces systèmes d'exclusion que Foucault trouve au cœur de la raison moderne. Bien, il est possible de défendre que la récupération de la dialectique au XIXe siècle, une récupération dont l'axe central tourne autour de l'expérience philosophique hegelienne, on peut dire que cette récupération elle est profondément solidaire de la confrontation avec la folie, solidaire de la dérive à partir de ce qui à la forme de la déraison. Bien, c'est intéressant aussi de rappeler comme cette récupération, elle casse, disons, cette histoire de renfermement de la folie en deux points. Tout d'abord, la notion d'absolu sera l'expression positive de ce que nous avons vu jusqu'à présent et qui continuera à être perçu comme la folie. C'est-à-dire une forme d'expérience, la folie en tant qu'une forme d'expérience basée sur l'impossibilité de la pensée, fondée sur des contradictions, fondée sur l'impossibilité de ne pas conjuguer des dispositions contradictoires et de produire des objets à partir des contradictions. Deuxièmement, le moment de perte explicite des raisons, ils seront là pour constituer le figure de la conscience vers l'absolu. La formation de la conscience vers le savoir passe par la folie, ainsi que la figure elle-même du savoir qui attend la vérité. Ce qui ne pouvait pas être différent pour quelqu'un qui défendra clairement, là je cite Hegel, que notre conception de folie, elle surgit d'un développement de l'âme, des formes et des niveaux de l'âme. Une forme au niveau nécessaire au développement de l'âme. Cela ne signifie pas que chaque sujet doit passer par cet état de déchirement en tant que condition de l'absolu. En affirmant que la folie est un niveau essentiel du développement de l'âme, Hegel établit une analogie instructive entre la folie et les crimes. Ça est dans l'encyclopédie. Il se souviendra comment, dans la philosophie du droit, le crime sera défini de manière relativement similaire par l'expression d'un développement, d'une apparition nécessaire de vouloir humain. Eine notwendige Erscheinung des menschlichen Willens. Et quiconque se souvient d'Antigone comprendra que le crime peut à un moment donné apparaître comme la condition de la constitution de l'expérience de la liberté. Cependant, cela ne signifie pas que le crime, comme la folie, est nécessaire pour tous. En fait, cela signifie que ces extrêmes ils devraient être présents comme disons, devant être surmontés par la constitution sociale de la liberté. Mais comme on le sait, l'opération de surmonter, elle préserve, c'est le nom d'une certaine métamorphose, c'est qu'elle dépasse d'une certaine façon, en fait, ce qui les dépasse, le perverti. Et cela explique, en grande partie, la raison de l'enthousiasme de Hegel pour Pinel, dont le traité médico-philosophique, il connaissait très bien. Car Pinel aurait montré à quel point la folie n'était pas la perte abstraite de la raison, mais, je cite Hegel, une contradiction dans la raison qui existe encore. Il aurait montré, Pinel, le patient comme rationnel. Et cette contradiction au sein de la raison qui existe encore, elle sera décrite comme la non-relation entre la totalité systématique de la conscience avec son réseau de médiation sociale et la particularité non fluidifiée du sentiment de soi déterminé par le corps. En fait, cette définition, elle reprend la manière dont Hegel définit la maladie en général dans la philosophie de la nature. La maladie sera l'autonomisation d'un système ou d'un organe qui est fixé et persiste dans son activité particulière malgré l'activité et des fluidités de la totalité. La maladie est donc une fixation dans une activité particulière, telle qu'un estomac surchargé qui semble agir sans tenir compte de son insertion dans une totalité fonctionnelle. Bien, cette notion de maladie organique, elle sera reprise lorsque Hegel affirmera qui le sujet fou à le négatif de lui-même en soi-même, deux mots de Hegel. Comme s'il s'agissait d'un espace de déchirement qui produit une scission de la personnalité au sein d'un seul et même état. Cette notion d'autonomisation des fonctions et des représentations par rapport à une unité fonctionnelle semble suivre de près ce qui sera la caractérisation fondamentale de la schizophrénie d'Eugène Bleuler. Cependant, elle présente une différence fondamentale qui se trouve en ce qu'Hegel comprend exactement par totalité. Bien, mais avant d'entrer dans ces points, remarquons comment l'exemple de Pinel, utilisé par Hegel, est encore plus suggestif, car nous savons comment Foucault verra dans son traitement moral de Pinel l'un des actes de naissance de la psychiatrie moderne, et de la psychiatrie moderne en tant que pratique disciplinaire. En ce qui concerne cette relation interne entre raison et folie, qui serait à la base du traitement moral de Pinel, Foucault dira, et je cite Foucault, « Donc, les chaînes tombent, les fous se trouvent libérés. Et dans cet instant, ils recouvrent la raison. Ou plutôt, non, ce n'est pas la raison qui réapparaît en elle-même et pour elle-même. Ce sont des espèces sociales toutes constituées qui ont sommeillé longtemps sous la folie et qui se dressent dans le bloc, dans une conformité parfaite à ce qu'elles représentent, sans altération ou grimace. Comme si les fous, libérés de l'animalité à laquelle le chêne le contraignait, ne rejoignaient l'humanité qui dans le type social. » Bien, c'est Foucault en faisant, disons, un commentaire de cette fameuse passage où Pinel libère le fou de Bicêtre de ses chaînes. Bien, donc on voit là que la liberté, elle serait ici solidaire de l'assomption des types sociaux endossés par les discours médicaux. La cure ne serait rien d'autre qui, je cite Foucault, la réédification d'une société sur les thèmes de la conformité au type. Cela explique pourquoi Foucault dira qu'en réalité, cette liberté, elle est l'internalisation de l'aliénation. C'est un mythe qui fait passer pour la libération d'une vérité, c'est qu'il y a reconstitution d'une morale pour la guérison spontanée de la folie, c'est qu'il y a peut-être une insertion secrète dans une réalité artificielle. Et n'y aurait-il pas un mythe plus grand que la croyance en la nature normative d'une unité fonctionnelle de la personnalité? Un mythe que Hegel semble partager en parlant de la contradiction entre la particularité, en parlant de la folie comme la contradiction entre la particularité de la détermination corporelle et la totalité de la conscience. Bien, comme nous pouvons l'imaginer, ce n'est pas exactement ma lecture de Hegel. Car si l'expérience sociale ne peut manquer de comprendre la folie comme un pouvoir inscrit dans son sang, c'est parce qu'il y aura un mouvement nécessaire dans lequel la raison doit à un moment donné être indiscernable de la folie. Sur les chemins de la connaissance de la vérité, la conscience doit désespérer, et non par hasard. Hegel dira que sur les chemins de l'absolu, la conscience doit se retrouver dans le déchirement absolu. Et le terme ici, c'est Zerrissenheit. Et ce terme n'est pas ici par hasard, parce que Zerrissenheit sera utilisé à différents moments dans lesquels Hegel décrit la folie et la maladie. De la même manière, la conscience doit s'aliéner et devenir une autre. Hegel parle même d'être hors de soi. Et encore une fois, l'auteur ne cesse pas d'avoir des résonances cliniques, aliénation. Ces processus, ils indiquent qu'il existe un point de distinction entre la raison et la folie, dont la reconnaissance est une condition de la critique, non point d'indistinction entre la raison et la folie, dont la reconnaissance est une condition de la critique du sens commun et des représentations naturelles qui servent de moteur à la dialectique. La dialectique hegelienne, à sa manière, elle sera constituée donc d'une écoute de la folie, une écoute qui produit une transformation dans les structures de la pensée. Comme si la dialectique, elle était une sorte de réponse, peut-être la seule réponse possible à ce que la folie expose. La dialectique est très proche de la folie pour être son simple silence. Bien, il est possible de dire cela car depuis la constitution de cadre psychiatrique de la schizophrénie et de la démence précoce, la contradiction est comprise comme symptôme majeur des dissociations. En ce sens, la psychiatrie a conservé l'interdiction aristotélicienne de penser l'existence des objets à partir des propositions contradictoires. La contradiction ne peut indiquer qu'un vide d'objet à l'intérieur duquel la folie ne peut apparaître que comme absence d'œuvre. Néanmoins, la reprise de la dialectique à partir de Hegel s'est fondée, entre autres, sur une jonction entre contradiction et infini qui pourrait conduire la pensée au-delà des limites de la représentation. Dans cette stratégie, il y a une réévaluation du rapport entre raison et folie. Si, comme disait Hegel, la dialectique est l'esprit des contradictions organisées, alors cette organisation de la contradiction donne à la folie une place interne au mouvement du concept. Une internalisation de la folie qui n'est pas simplement l'intégration de l'altérité, mais surtout, c'est une stratégie singulière d'éclatement de la finitude et de la représentation. Comme si la dialectique était constituée par un passage vers la folie, comme si elle était une guérison dont le processus est aussi bien une dissolution, autant de l'existence même de la maladie que de la cure. Bien, mais commençons alors par une lettre. C'est une lettre de 1810 de Hegel à son ami Windischmann. Bien, je cite la lettre. Soyez persuadé que dans le tas d'âmes qui vous les décrivez, ce travail pour une part, cette descente dans des régions obscures où rien ne se montre ferme, déterminé et certain, où on peut partout brûle des lumières, mais côtoyées par des abîmes, des lumières qui, troublées par les milieux qui les entourent, projettent de reflets trompeurs plutôt qu'elles n'éclairent, des régions où chaque sentier qui commence s'arrête brusquement, se perd dans l'indéterminé et nous arrache nous-mêmes à notre destination et à notre direction. Je connais par ma propre expérience cet état d'âme, ou bien plutôt de la raison, lorsqu'elle a une fois pénétré avec intérêt et avec ses pressentiments dans un chaos des phénomènes et qui antérieurement certaine du bout, elle n'a pas encore traversé les chaos. Elle n'est pas encore parvenue à une vue claire et détaillée de l'ensemble. J'ai pendant quelques années souffert de cette hypochondrie jusqu'à en perdre les forces. Chaque homme a sans doute connu un tel point critique dans sa vie, le point nocturne de la contraction de son être, contraint de traverser un passage étroit et resserré, parfois il est fortifié et confirmé dans son assurance de soi-même. Bien, Hegel parle ici d'une crise qu'il a traversé avant l'écriture de la phénoménologie de l'esprit, plutôt à Berne. La description de ses formes de souffrance, de son chaos, de son point de contraction nocturne, de ses abîmes et de ses lumières qui les projettent, qui les reflètent trompeurs, sera reprise à différents moments lorsqu'il évoquera les formes de la folie dans la phénoménologie de l'esprit. Il y a au moins deux moments explicites. Le premier est l'une des figures de la raison active, à savoir la loi du cœur et les délires de la présomption. La seconde est dans la section esprit et elle s'appelle la belle âme. Bien, soulignons-nous dans un premier temps en quoi ces deux figures sont des représentations d'effondrement de l'action due à l'incapacité du sujet à orienter socialement sa révolte. Ce sont des figures des positions de révolte sur les cours à propos du cours du monde, mais d'une révolte stérile. Comme si la folie était au sens le plus profond du terme, non pas en catégorie psychologique, mais en catégorie de l'action. Ce qui peut expliquer pourquoi les discussions sur la folie dans l'encyclopédie se trouvent dans la section anthropologie et non pas dans la section psychologie. Ce qui caractérise la folie n'est pas le chaos, les points de contraction nocturne de l'être, les lumières trompeuses ou le déchirement. Dans un sens, tous ces processus sont présents dans le mouvement de formation de la conscience. Ce qui différencie Bildung et Verrückheit, formation et folie, est en quelque sorte une simple affaire de fixation, d'impossibilité de médiation, de paralysie du mouvement qui produit une incapacité pratique profonde, incapable d'opérer par des métamorphoses. Je voudrais insister sur ce point, car il y a une dimension fondamentale de la révolte dans la souffrance qui est à la base de la folie. Une révolte qui s'exprime dans les trois dimensions de ce que nous comprenons généralement par forme de vie, à savoir le désir, le langage et le travail. Pour cette raison, depuis le début, l'expression du désir, du langage et de l'action dans la folie ont toujours été marquées par la contradiction. Comme si la forme même de la non-existence d'un objet, à savoir la contradiction, fournissait l'image de l'existence qui n'accepte pas son inscription dans la forme sociale actuelle. En ce sens, ce ne sera pas par hasard que la folie et le désir des réformes sociales seront autant interconnectés dans notre imaginaire. Et notez par exemple ce que Hegel parle de la loi du cœur. Il pense clairement aux figures littéraires de réformateurs comme Karl Moore, des brigands de Schiller, qui subissent une inversion qui est la forme même de son inaction. Moore veut réaliser le dessein romantique de joindre la loi au cœur, de sorte que la communauté trouve son fondement dans l'authenticité des sentiments. Il veut parler au cœur des hommes, ce même cœur brisé par les conventions sociales. Cependant, son action en tant qu'abstraction de toute différence, en tant qu'expression immédiate de la certitude de la transparence de soi, verra chaque tentative de transformation échouer, verra son désir de réforme rejeté par tous. Hegel affirme ainsi que la loi du cœur ne projette que la subversion qui est elle-même. En tant que la conscience a le rationnel dans elle-même, elle a le réseau des relations sociales en elle-même. Ce qui ne pouvait en être autrement, puisque ce réseau lui est constitutif. La conscience de soi est chez Hegel un concept relationnel depuis son origine, pas un concept mentaliste. Et à cause de cela, La conscience qui agit pourrait toucher d'autres cœurs. Si cela ne se produit pas, c'est parce qu'elle se bat réellement contre elle-même, sans pouvoir réellement antérioriser cette lutte. Elle se divise entre conscience générale et détermination privée. Et cette division est sa folie. Et la base de sa mauvaise conduite. C'est qu'elle reçoit de l'autre son isolement et la preuve de l'inefficacité de sa position. Elle reçoit de l'autre son propre message sous une forme inversée. Mais elle ne le sait pas. Pour cette raison, elle fait de son isolement la source de sa violence. Hegel va jusqu'à dire que sa fureur contre le monde est une rage pour se préserver de sa propre destruction. La folie de la conscience n'est pas exactement dans le fait qu'elle se trompe, mais elle est dans l'impossibilité de comprendre que le chemin de l'erreur est le chemin de la vérité. Je cite Hegel. En effet, le vrai est d'abord pour le cœur la loi du cœur, c'est-à-dire quelque chose de seulement visé, qui, contrairement à l'ordre constitué, n'a pas soutenu la lumière du jour, mais qui, aussitôt exposée à cette lumière, s'effondre. Cette loi sienne devrait avoir réalité effective. Alors, la loi, en tant que réalité effective, en tant qu'ordre valide, lui est bien but et essence. Mais immédiatement, d'autre part, la réalité effective, c'est-à-dire proprement la loi en tant qu'ordre valide, se présente plutôt à ce cœur comme néant. Cette compréhension de la folie en tant que catégorie de l'action, en tant que forme de paralysie de l'action, réapparaît lorsque Hegel parle de la belle âme, dont la plus grande inspiration provient de la littérature, en l'occurrence des écrits de Novalis. Hegel diagnostique dans la subjectivité romantique une tendance à l'évasion dans l'intériorité, à l'abstraction de toute déterminité concrète qui lui donne une seconde figure générale de la folie, qu'il décrit de la façon suivante. Je cite. Sur la belle âme, il lui manque la force de s'aliéner, la force de se faire soi-même une chose et de supporter l'être. La conscience vit dans l'angoisse de souiller la splendeur de son intériorité par l'action, et l'être est là, et pour préserver la pureté de son cœur, elle fouille le contact de l'effectivité et persiste dans l'impuissance entêtée. Dans cette pureté transparente de ce moment, elle devient une malheureuse belle âme. Comme on la nomme, sa lumière s'étend peu à peu en elle-même et elle s'évanouit comme une vapeur sans forme qui se dissout dans l'air. Bien, dans l'encyclopédie, celui-ci serait une forme fondamentale de folie dans laquelle une représentation subjective se sépare de l'objectivité en créant un comportement d'évasion en relation au cours du monde. Il est intéressant de voir comment Hegel décrit ce processus, à savoir l'absence de force de s'aliéner et d'agir. C'est une façon de dire que la conscience devient folle parce qu'elle ne peut pas accepter la folie qui consiste à s'aliéner et à se faire chose. Mais notons la particularité de la réponse de Hegel à de telles déchirures. Et cela passe par l'intégration de ce que sera la description même du délire, à savoir la contradiction en tant que forme d'impossibilité de l'expérience. Par exemple, révélons un instant sur les fondements de l'apparition de la schizophrénie. Nous savons comment la catégorie apparaît en 1911, constituée par le psychiatre Eugène Bleuler. Cette consolidation résultait de la critique de la soi-disant école de Zurich face à les stratégies de Kreppli, un psychiatre responsable de la nosographie psychiatrique la plus influente de la fin du 19e et du début du 20e siècle. ses stratégies de Krebs qui consistaient à élever la démence précoce à l'état de structure, à la situation des structures fondamentales pour la compréhension des psychoses. La démence précoce liait la compréhension de la maladie mentale à une forme de dégénérescence qui soumettait l'horizon de la normalité aux coordonnées propres à une synthèse évolutive. Dans cette perspective, la psychose était l'inverse du processus de maturation individuelle. Face à une forme de compréhension de la maladie mentale évolutive, Bleuler a construit une catégorie définie fonctionnellement à partir de la notion des Spaltung, des dissociations. Dans son Lehrbuch de psychiatrie, organisé par son fils Manfred Bleuler, nous trouverons des définitions de la schizophrénie comme étant liées à une perturbation élémentaire, je cite, de l'unité affaiblie, une fragmentation et dissociation de la pensée, des sentiments et de la volonté, ainsi que du sentiment subjectif de la personnalité. De cette manière, la schizophrénie indiquait le manque d'unité et d'ordre de tout le processus psychique, ce qui nous conduisait nécessairement à une, je cite, à une image du monde construite par les sens contradictoires et par le désir et les peurs contradictoires du patient. Cette structure contradictoire de la vie psychique, exprimée dans l'affectivité, dans la pensée et dans l'identité personnelle, elle était l'expression majeure de la rupture de la normativité qui définissait les comportements normaux, ainsi que de l'affaiblissement de la capacité de synthèse du moi. En ce sens, il est important de comprendre comment une telle structure contradictoire a marqué, dans la plupart des cas, la perte de l'unité fonctionnelle de la personne et ses attentes en matière d'autonomie. En 1919, le psychanalyste Victor Tausk compara la schizophrénie à la présence d'une machine à influencer, Beeinflussungsapparat. Comme si les sujets étaient guidés dans ses actions et ses émotions par une machine dissociée de soi et capable de produire une imposition de la pensée, des suggestions, des sensations qui expriment la présence d'une altérité profonde chez les sujets. À peu près au même moment, des psychiatres comme Gaëtan de Kerembeau ont insisté à associer la schizophrénie en autisme mental, soulignant une fois encore la dissociation au sein de l'unité synthétique du moi. Et nous avons déjà trouvé cette compréhension de la centralité du problème de l'aliénation dans la définition krebsienne de démence précoce. Bien, j'insiste sur cette histoire des catégories cliniques pour souligner la particularité de la stratégie de Regel. Là, je finis dans ce point. Cela passe par les changements radicaux de ce que nous entendons par forme de pensée normale. Faisons un détour par un point important de la critique hegelienne de Kant afin de mieux comprendre cette question. Bien, nous connaissons chez Kant la définition de la dialectique comme logique de l'apparence, qui exprime les illusions produites lorsque les idées de la raison cherchent à être prises par des déterminations objectives de la chose elle-même, produisant des contradictions insurmontables. Ce qui nous montre comment, paradoxalement, chez Kant, l'exercice de la raison est indissociable de la production des contradictions. Comme s'il y avait une disposition naturelle de la raison à produire des contradictions et à nous désorienter dans la pensée. Celle n'est pas réglée par une autre faculté, dans le cas l'entendement. La raison ne peut pas nous amener à nous guider dans l'action et dans le jugement. D'une certaine manière, sans une régulation externe, la raison nous rend fous. sans pouvoir produire aucun concept, la raison ne fait que libérer le concept de l'entendement des limites inévitables de l'expérience possible. L'idée apparaît ainsi comme un concept de la totalité des conditions relatives à une conditionnée donnée. Mais face à une telle illimité, la raison ne peut produire que des jugements contradictoires, comme nous le voyons lorsqu'elle rencontre l'infini du monde, la composition de la substance ou la spontanéité de la liberté. Nous savons que Kant ne fait pas un simple déni de l'idée dans sa matrice platonicienne. Il rappelle plutôt comment il peut fonctionner, l'idée peut fonctionner, en tant de façon capable de proposer une certaine unité collective comme finalité, ou de surmonter les limitations contextuelles, comme dans le cas de la liberté morale, en tant qu'idée de la raison qui doit guider notre conduite vers un maximum de perfection possible. Autrement dit, l'idée, en tant que totalité absolue de phénomène, n'est, je cite Kant, qu'une idée. Car comme nous ne pouvons jamais nous en rendre compte dans une image similaire, elle reste un problème sans solution. L'unité de la raison n'est donc pas une unité d'expérience possible. Elle est l'exposition de la force productive du problème. Ainsi, la contradiction au sens de la dialectique kantienne ne mène pas simplement au scepticisme, mais nous mène à un principe régulateur basé sur une progression infinie dans la série des conditions de phénomène. Il existe une articulation singulière entre contradiction et infinité dans la dialectique kantienne, mais il s'agit d'une articulation purement destituante, car l'exercice de la raison ne permet aucune actualisation de l'infini ou d'une totalité absolue. Bien, c'est dans ce contexte des disqualifications qui recouvre la dialectique, reprend la dialectique. Ce n'est pas un hasard si l'un des mouvements les plus pertinents de son premier volume de la science de la logique concerne exactement la critique du concept de progression infinie. Car il s'agit de montrer que penser l'infini comme une progression infinie, c'est soutenir c'est soutenir dans la contradiction de penser en infini qui conserve le fini. Je cite Hegel, ces progrès à l'infini est donc la contradiction qui n'est pas dissoute, mais qui est toujours déclarée comme présente. Il y a un dépassement de l'abstrait qui reste incomplet, dans la mesure où vous allez au-delà, vous n'allez pas plus loin. Toute mise au jour de l'infini n'est donc que la répétition monotone entre le fini et l'infini. C'est l'incomplétude toujours mise à jour. Pensez sur la figure d'une approche de l'absolu qui ne s'approche jamais. C'est seulement l'infini périssant, l'acte infini de périssement du fini qui est ainsi conservé. La réalisation de l'idée ne peut apparaître que comme l'expression d'un mal infini. Bien, il est symptomatique que Hegel reproche à Kant de ne pas avoir dissous la contradiction entre fini et infini. Mais remarquez qu'Hegel dit que la contradiction ne se dissout pas parce qu'elle ne va pas au fond. Et approfondir la contradiction signifie comprendre comment, je cite, c'est de la nature du fini lui-même de se dépasser, de nier sa négation et de devenir infini. Mais dans la mesure où le fini lui-même est élevé à l'infini, cette violence qu'il inflige n'est pas étrange, mais celle-là est sa nature. Ainsi, le fini a disparu dans l'infini. Ce qui est n'est qu'il l'infini. En ce sens, on peut dire que Hegel veut aussi lier, comme le fait Kant, l'expérience critique des objets à la conscience critique que la raison a d'elle-même. Mais une telle conscience critique de la raison n'est pas, comme chez Kant, liée à la conscience de limite de la raison afin de définir le champ des illusions. La critique en tant que définition des limites a conduit, par exemple, Théodore Adorno à déclarer, je cite Adorno, « Le système conscient est un système des signes des stops. » N'est-ce pas une question de, il ne s'agit pas d'une question de quid juris qui définit l'horizon de critique régulier et la dialectique en général. Il s'agit plutôt de transformer l'expérience critique des objets dans une conscience de la contradiction entre l'expérience et les modèles actuels des représentations. C'est là afin de faire de cette contradiction un moment nécessaire dans le processus de réalisation de l'idée. La critique n'est plus une définition des champs de législation. Elle est un processus de dépassement des frontières vers l'absolu. Car la figure de l'erreur et celle de l'illusion et de la folie ont changé de sens. Ce ne sont pas simplement des déficits qui ne tiennent pas compte des domaines et des modes de législation. L'erreur, l'illusion et la folie sont plutôt des moments du processus de réalisation de l'idée. Ce n'est qu'une conséquence nécessaire de la force dialectique de conversion de la violence en mode de réalisation de l'idée. L'erreur, l'illusion et la folie sont des moments de l'idée, non pas parce qu'elle convertit toute violence dans une pure inefficacité, mais c'est parce que l'idée est une unité, d'expérience réflexive avec le mouvement de surmonter ses propres configurations actuelles. Unité avec le mouvement d'absorption de ses extérieurs, un mouvement qui est l'expression d'une processualité continuelle. Bien, dans une étude classique, Monique David-Ménard montre comment la critique de la raison pure serait animée, je cite, par l'opposition des idées délirantes sur l'idée du monde avec les constitutions réelles pour la connaissance. Car l'entendement pourrait réussir là où la raison échoue. Et cela serait possible grâce à la manière dont la compréhension constitue des objets d'expérience à travers des oppositions, dont l'entendement constitue des objets d'expérience à travers des oppositions réelles. Et je cite, on comprend ce qu'est un objet par la connaissance lorsqu'on réfléchit sur les raisonnements antinomiques de la raison qui prétendent connaître le monde. Lucio Coletti, dans une discussion classique sur la dialectique dans les années 60, affirmait que le dogmatisme dialectique reposait sur l'incapacité de comprendre que dans le monde, il n'y avait que des oppositions réelles, pas des contradictions réelles. Accepter l'existence de contradictions réelles reviendrait à délirer sur le monde. Car appréhender les mondes sur la forme de la contradiction réelle impliquerait le définir sous les signes d'une dissolution de la matérialité réelle des contraires, de sa positivité immanente. Cela signifie admettre une négation en soi qui ne peut pas exister dans l'ordre matériel. Je cite Colette. Il n'y a pas de choses négatives en soi, des choses qui sont des négations générales et qui ne tiennent donc pas compte de leur constitution interne. Monique David-Ménard, à sa manière, semble dire quelque chose de proche lorsqu'elle affirme on comprend ce qui est un objet par la connaissance, par l'entendement, lorsqu'on réfléchit. Non, lorsqu'elle affirme que la contradiction n'a pas de pouvoir sur les choses mêmes. En bref, il ne peut y avoir de matérialisme avec les théories des contradictions réelles. Ce qui ne serait qu'une confusion entre l'ordre des idées, qui n'a pas de réalité en dehors des relations entre deux opposés, comme le fini n'a pas de réalité en dehors de rapport à l'infini, l'un n'a pas de réalité en dehors de rapport avec les multiples, etc., et l'ordre des choses. Et c'est là, en cela, je dirais, nous mesurons la taille du geste régulier consistant à lire les conflits des antinomies de la raison comme des contradictions et à le placer au cœur de l'expérience du monde. C'était ça. Merci.
Merci Vladimir, c'était compliqué ton texte, parce que tu montres la solidarité, ça marche ça?
Oui.
Tu montres la solidarité et l'excellence du coup de plusieurs moments de la pensée hegélienne, qui est d'une certaine manière à t'entendre une pensée de l'immanence et non pas de l'extériorité. Lorsque tu pars de la thèse célèbre de Foucault dans l'histoire de la folie, tu montres que l'extériorité, l'importance des facteurs extérieurs dans la détermination d'un nouveau statut de la folie chez Foucault, est lié à sa lecture du geste de Pinel, puisque au moment où Pinel délie les chaînes des insensés, qui du coup deviennent des fous au lieu d'être des insensés comme à l'âge classique, quelque chose dans ce qu'il appellera ensuite les systèmes de discours, les pratiques discursives qui sont sociales et qui jusque-là étaient relativement disjoints de la question de la folie, disjoints ou en dessous, il dit, accueillent une place pour la folie. C'est-à-dire que les fous ont l'air d'être libres, mais il y a des énoncés, des systèmes d'énoncés qui réduisent la folie à être une non-vérité. Et ces systèmes d'énoncés sont des systèmes de normes qui se sont mis en place à la fois dans la pensée, dans le discours, mais aussi dans les institutions, au moment où Pinel délie les chaînes. Donc, la folie devient en effet l'absence d'œuvre parce que il n'y a pas de pensée intérieure de la folie. Il n'y a pas chez Pinel d'interrogation essentielle sur la folie. Il y a une manière de mettre la folie quelque part dans une place qui était préparée par des facteurs discursifs et sociaux extérieure à elle-même, d'une certaine façon. Ça, d'une part. Donc, penser de l'extériorité, et ce que tu montres de Hegel, c'est que, au contraire, lorsque Hegel loue Pinel, c'est parce que il voit en Pinel, qui dit que la folie n'est pas complètement l'absence de la raison, une sorte de possibilité, il ne dit pas que Pinel fait tout ça, mais lui il va le faire, une possibilité de faire de la folie un moment de la raison, c'est-à-dire tout sauf de l'extériorité. Il fait une sorte, la genèse d'un moment nécessairement fou en ce qui concerne la vie, de la maladie dans la production de la santé, et en ce qui concerne la folie, il fait de la folie, il fait de la raison un moment qui passe nécessairement par la folie. Alors, de cela, tu prends chez Hegel plusieurs formulations différentes. Il y en a une qui est sa lettre à Windischmann, où il parle de son expérience de la quasi-folie dans l'écriture de la phénoménologie de l'esprit. S'il n'y a pas ce risque de la de la Verzweiflung, du désespoir. Aucune raison ne peut prendre forme. C'est-à-dire, en effet, la folie est là, intégrée, et la folie pathologique, elle est liée au fait que quelqu'un n'arrive pas à traverser ce moment. Et donc, le moment du déchirement se fige. Les deux autres exemples ne sont plus extraits de l'être, mais sont extraits de la phénoménologie de l'esprit, la loi du cœur et le délire de la présomption, et puis la belle âme. Et alors, ça te permet d'introduire, j'essaye de ne pas être critique tout de suite, ce qui est souvent mon défaut, et puis comme cette discussion avec toi me passionne, j'ai envie d'être critique tout de suite, mais j'éloigne pour le moment la critique. Ceci te permet d'introduire un autre thème, à savoir, c'est pas seulement que la folie est un moment nécessaire de la raison, c'est aussi que entre ce que tu as appelé le psychologique et le social, il y a une corrélation absolue. C'est-à-dire que la loi du cœur et la folie de la présomption, de même que la belle herbe, c'est à la fois social et psychologique, ou tu dis, plutôt que psychologique, il faudrait dire anthropologique. C'est-à-dire que l'intériorité hégélienne, c'est pas seulement la folie comme moment de la raison, c'est aussi le social ou l'action. Tu as dit que la question de la folie des réformateurs fous qui font la leçon à tout le monde ou qui ne supportent pas l'épreuve de la contradiction quand ils sont en train de réaliser une visée et que le fait même de le réaliser contredit ce qu'ils voulaient y mettre, parce que, à propos de la loi du cœur, il dit qu'ils ne supportent pas la lumière du monde. Plus tard, dans la troisième partie de la phénoménologie, au moment de la dialectique de la tromperie et la chose même, il y a un mot avant la tromperie et la chose même, je ne sais plus lequel, il parle plus, il dit plus, il ne supporte pas la lumière du monde, mais il montre que dans un monde de langage, toute action, tout ce qu'on entreprend, est nécessairement mal interprété. Et que la folie, c'est de ne pas supporter cela. Bon. Donc, tu montres que chez Hegel, et ça c'est tout à fait exact, entre ce qu'on est tenté, nous, d'appeler psychologique et que tu appelles anthropologique, et la question sociale et politique, il y a une implication mutuelle qui est un autre aspect de cette conception de l'immanence de la raison à tout ce qui a l'air de n'être pas elle. Bon, c'est en effet le contraire absolu de ce que faisait Foucault. Et Foucault le sait bien. Et d'ailleurs, dans l'ordre du discours, son discours inaugural, sa première leçon au Collège de France, une fois qu'il s'est expliqué sur ce que c'est que l'ordre du discours, il dit « Et à la fin, il y aura Hegel qui nous attendra. » Quand on aura consacré toute notre énergie à s'éloigner de lui, il sera là. Bon, tu peux dire, Hegel est toujours là. Bon, donc le deuxième moment, c'est de l'intériorité, c'est ce fait que entre l'anthropologique et le social, il y a une corrélation à la fois, enfin une corrélation développée par Hegel. Le troisième moment, qui est la raison des raisons, c'est la logique. C'est-à-dire que la théorie conceptuelle de la contradiction, la théorie logique de la contradiction, c'est ce qui permet de comprendre que tout ce qui a l'air d'être extérieur à autre chose est en fait interne à cette autre chose. Et c'est en effet dans la critique de Kant que Hegel dit ça, dans l'analyse par Kant de la régression à l'infini. Est-ce que le monde a un commencement dans l'espace et dans le temps ou pas? Est-ce qu'il y a une première cause ou pas? Si on dit que pas, on sort de la rationalité causale. Si on dit que pas, on est dans la rationalité causale, mais le monde n'est plus une unité parce que ça va à l'infini. Et si on dit que oui, alors on pose un absolu qui n'a pas lieu d'être dans les pensées de la science. Donc, les trois moments de ton exposé développent ce que c'est qu'une pensée, que la dialectique comme pensée de l'intériorité. Et cette fois, tu le montres à propos de cette affaire de délire et raison, hein, et maladie et santé. Donc, tu fais de Hegel le philosophe de l'immanence. Alors, comment discuter ? On se comprend très très bien, et depuis longtemps, parce qu'on pense exactement le contraire. C'est-à-dire que... Alors, si je commence la critique, il y a un mot chez Kant que tu n'as pas prononcé, parce que tu adoptes la critique hegelienne, c'est le mot d'antinomie. Kant ne parle jamais de contradiction. Il a inventé d'autres termes. Sur le monde, il y a des propositions qui se font face, entre lesquelles il est un... Quand il y a une espèce de structure logique qui est tout sauf une contradiction, si vous partez de l'idée que le monde a une cause non causée, et bien pendant ce temps-là, il y a l'argument inverse qui détruit votre raisonnement, et vice-versa. Ça n'est pas une contradiction, et donc il dit antinomie. Il y a deux propositions qui se font face. Bon. Et Hegel n'a rien voulu comprendre dans son génie propre à la théorie du négatif chez Kant, ça c'est vraiment mon dada depuis les années 90. Bon. Cela dit, je pense que Hegel c'est le plus grand penseur de ce que c'est qu'un conflit. C'est-à-dire, personne n'a pensé aussi bien que lui que dans le social, ce qui fait la réalité de la vie sociale et politique, c'est précisément l'incompatibilité de deux positions. Le réel politique est fait de ça. Alors, évidemment, chez Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel, ça ressemble. C'est précisément la question du rapport des sexes, c'est précisément l'impossibilité de l'un, on pourrait dire. Hegel, c'est le penseur du conflit. Ok, je t'accorde ça vraiment. Mais, oui, d'accord, je vais m'arrêter. Mais, sur cette affaire d'extériorité ou d'immanence, là je ne te suis pas et je ne suivrai pas non plus Foucault jusqu'au bout. C'est-à-dire que je pense que tu m'as fait connaître un texte, et au fond, pour le moment, je m'arrêterai là. Tu m'as fait connaître une lettre, une autre lettre de Hegel, une lettre à sa femme, dans laquelle il explique à sa femme, qui est déprimée, que si elle avait compris ce que c'était que la négation de la négation, elle sortirait de sa déprime. C'est insupportable et c'est faux. Bon. C'est-à-dire que... Oh, c'est très intéressant parce qu'il est parfaitement cohérent. Et c'est toi qui m'as fait connaître cette lettre. Et il lui fait la leçon de dialectique. Alors que... Et pourtant, tu es freudien et lacanien. L'idée de la psychanalyse, peut-être pas de la psychiatrie dans les moments que tu as cités, mais l'idée de la psychanalyse, c'est l'idée que il y a une logique des phénomènes inconscients inintégrable dans la raison, dans la logique de la raison de la veille. Et qu'on ne va pas unifier les deux, sinon c'est-à-dire on ne peut pas intégrer en ce sens la folie dans la raison. Et d'autre part, sur la question de l'infini, effectivement, Hegel dit que Kant a eu peur, Stop partout, dit Adorno, je ne savais pas, mais que quand tu as une peur du pouvoir de la contradiction, bien sûr que quand tu as une peur. Et alors, il vaut mieux un Hegel qui dit « Moi, je passe partout, il suffit de supporter le désespoir pour être à la fois en bonne santé, en bonne santé mentale et un grand penseur ?» Je ne crois pas plus ça. Je pense qu'il y a une extériorité dans... Il y a une extériorité même dans le concept philosophique. Et que c'est de ça que rend compte Kant, dans sa critique de ce qu'on appelle depuis Aristote une contradiction, et que Hegel reprend. Voilà, donc pour le moment j'en dis pas plus, mais je trouve que tu as très bien exposé, même si c'était compliqué, les différents moments de l'immanence chez Hegel. Et que tu as raison de dire que peut-être que Foucault, ça ne suffit pas d'opposer à cette immanence une pensée de l'extériorité comme il le fait, sur l'exemple du moment Pinel, mais qu'il y a d'autres manières de défendre une pensée de l'extériorité.
Ok, merci beaucoup Monique. Je crois, je voudrais au moins parler deux ou trois choses pour tes commentaires. Le premier, c'est... oui, c'est vrai, c'est que j'ai essayé d'insister, c'est comment une certaine façon de comprendre, disons, le défi qu'Hegel trouve dans sa récupération de la dialectique peut nous aider à assumer que l'expérience de la folie, disons, et là, l'expérience est l'élément fondamental, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une expérience de la folie, elle est solidaire, disons, d'une possibilité aussi de transformation de la pensée normale. C'est qu'on pourrait appeler, disons, une pensée, si on accepte une distinction entre normale et pathologique. C'est-à-dire, l'immanence du rapport entre raison et folie, dans ce cas, elle a une fonction centrale. La fonction centrale, c'est de montrer le régime des métamorphoses de la raison. Sans l'expérience de la folie, la raison ne peut pas se métamorphoser. Et elle doit se métamorphoser pour pouvoir attendre à une certaine condition de conceptualisation de l'expérience qui régale un nombre absolu. Donc, et dans ce processus, il est vrai qu'il y a une façon de comprendre ce qu'est la folie du point de vue de sa forme. Et quelle est la forme de la pensée marqué par la folie. Il est vrai qu'il, d'une façon ou d'autre, c'est-à-dire... Mais là, c'est intéressant parce qu'il y a une corrélation profonde. Parce que pour Hegel, bien, la question fondamentale, c'est le destin de la contradiction. Et c'est pas par hasard que pendant un très grand moment de la psychiatrie, disons, la définition même du délire schizophrène, elle était marquée, disons, elle était caractérisée par cette prévalence logique de la contradiction. Il est vrai que bien après, avec disons, tous les gens de l'analyse institutionnelle, cette prévalence de forme de contradiction, ça sera critiqué. Mais la chose intéressante, à mon avis, c'était de montrer comment il y a un changement dans cette possibilité de la pensée constituée des objets, qui passe par un rétablissement de ce qui chez Kant était impossible, c'est-à-dire que la raison légifère d'une certaine façon dans sa productivité immanente des objets. Mais il est vrai, je crois qu'il a touché un point central pour que cette dimension elle marche. Il faut que la lecture de ce que Kant nomme l'antinomie soit réduite à des figures de la contradiction.
Oui.
Ouais.
Alors que c'est tout autre chose. C'est pas simplement. Tu as cité cette phrase que j'ai reprise de la lettre de Freud à Ferenczi. Il lui disait en 1910 : j'ai réussi là où le paranoïaque échoue, en écrivant l'interprétation des rêves alors qu'il était dans un truc complètement dingue avec Fitz.
Excellent.
Je commençais avec
Kerzi. Bon. Dans la critique de la raison pure, et en particulier dans la dialectique et dans le rapport entre la dialectique et l'analytique, ce que Kant montre, c'est que c'est très intéressant, le presque délire de la raison. Et le mot, c'est Wahnsinn, et c'est aussi un terme qu'emploie Hegel. C'est très intéressant parce que il y a un moyen de l'approcher et de l'éviter. Et c'est seulement cette tentation et cet évitement qui permet de comprendre ce que c'est qu'une connaissance effective. Donc, c'est pas simplement la peur de la contradiction, c'est une espèce d'approche d'un point où la raison est comme Swedenborg, c'est-à-dire délirante. Alors, il a peur de ça. Bien sûr qu'il a peur. Mais il y a de la peur dans la pensée. Pourquoi il faudrait être tout le temps victorieux sous prétexte qu'on est philosophe ? C'est-à-dire, il élabore cette peur en essayant de la rendre productive. Bon, mais ça veut dire qu'il y a un extérieur du concept dans l'exercice du concept.
Ouais.
Alors que chez Hegel, c'est le contraire.
Mmh. Bon, ma question, c'est, il la rend productive en établissant cette table de négation, en donnant, disons, quatre formes de l'impossibilité. Quatre formes de l'impossibilité.
Je ne me promène jamais sans.
Donc, c'est qui, d'une certaine façon, disons, même si la question de la contradiction, elle n'est pas le mot central, elle est, on peut, disons, l'insistance logique générale. Parce qu'elle est la condition pour qu'on puisse établir une table de négation, comme une possibilité de la pensée.
Non, pas du tout. Dans la critique de la raison pure, il ne parle plus à proprement parler de contradiction, sauf après, dans la table du rien,
oui.
Il n'y a pas la contradiction.
Non.
C'est l'illusion des illusions, la contradiction. Parce que c'est une fois qu'il a montré qu'il y a des formes de négation qui sont toutes différenciées et dont aucune n'est ontologique,
oui.
Alors après, il reparle de la contradiction comme l'illusion des illusions, puisque les vraies négations, il a essayé de montrer qu'elles sont d'une autre nature.
Oui, mais ma question, c'est que la table de Rian, c'est là que, même si elle n'est pas présente, si elle ne présuppose pas comme condition logique générale de la pensée.
Oui, c'est corrélatif.
Oui.
Dire la contradiction, c'est vraiment l'illusion de la raison.
Oui.
Et montrer quelles sont les formes de négatif qui évite la contradiction, qui évite de croire que la contradiction c'est le summum du summum des négations, ces deux choses-là sont corrélatives, là tu as raison. Mais peut-être.
C'est parce que j'avais juste quelques points de détail que j'aurais voulu préciser, pas partir sans. À propos de la lettre à sa femme, elle date de quand ?
J'ai essayé de rechercher et je ne sais plus.
Et ensuite,
j'ai regardé,
parce que justement j'avais un problème sur la lettre,
je me rappelle,
la lettre 1800, à Windischmann.
1810.
1810.
La lettre à sa femme ?
Non, de
Windischmann.
1810. Oui. D'accord. Et celle à sa femme, alors vous ne savez pas où est.
Normalement, on devrait retrouver, parce que j'ai encore regardé tout à l'heure, mais je ne suis pas retombée dessus.
Je crois que c'est 12, 13, quelque chose. Mais c'est pas très loin.
Toutes les lettres à sa femme sont dans la table des matières. Il y a lettre à un tel, lettre à un tel, et il y a toute une série de lettres à sa femme. Mais comme je vérifiais juste avant de venir, je l'ai loupé.
Et alors l'appareil là de Victor Tchaouchke, parce que
l'appareil a influencé.
Mais je voudrais le nom en allemand parce que votre prononciation.
Oui.
Je suis désolée.
Beeinflussapparat.
Beeinflussapparat.
Oui.
Ok. J'avais quelques. Justement, je voulais pas repartir. Pour la contradiction, il y a quand même la bildung, quoi. Il faudrait quand même. Il y a quelque chose pour résoudre ce problème de contradiction, et c'est la bildung, la formation.
Oui, mais c'est bien ce que.
Oui, vous l'avez dit, ça résout. Ça pourrait résoudre si on. Après, on ne s'amuse pas à aller dans trop de.
Oui, mais la question intéressante est aussi de dire que cette formation, elle présuppose un changement de la valeur de la contradiction. Et ce n'est pas seulement, disons, un effacement de la contradiction, mais la contradiction, elle n'est plus une limite de la pensée, elle a une condition de productivité des objets. C'est un changement, hein, qui c'est ça, disons, le mouvement le plus, le, peut-être le plus singulier, hein, de cette récupération de la dialectique que Hegel a fait.
Oui, mais enfin, quand même, la Bildung, elle permettrait de vraiment de résoudre le problème.
Oui, mais la question intéressante, c'est qu'est-ce que signifie résoudre dans ce contexte, hein?
Bah,
résoudre les contradictions comment? On les fasse
enfin, vraiment libérer les enchaînés. Vraiment pas juste passer d'un mot à un autre, passer de insensé à fou, quoi. Mais leur donner, leur dire qu'il y a quelque chose en eux et que ce quelque chose, il est grand, mmh. Il est fort, que la faiblesse, c'est la force. Mmh. Enfin bon, je suis désolée, je dois aller loin, alors c'est pour ça que bon, je deviens un peu impatiente parce que je voulais juste poser. Merci.
Vous avez évoqué la folie, d'une part la contradiction comme productive, d'accord.
Tiens.
Vous avez évoqué la folie. Vous avez évoqué la folie comme productrice de la raison et surtout comme des moments permettant de repérer les métamorphoses de la raison. Est-ce que, c'est une question que nous posons en tout temps, est-ce que dans cette acception productive et dynamique, la folie n'était pas déjà une figure particulière de quelque chose de plus général? Donc on pourrait du coup trouver de manière très générale dans la raison, même quand ça ne se présente pas comme folie, je dirais, repérée comme telle. Ma question, c'est est-ce que vous auriez éventuellement d'autres manières d'approcher ces moments productifs des métamorphoses de la raison qui ne seraient pas toujours aperçus comme folie?
Il y a un autre. Parce que je dirais, ce sont... Il y a deux idées majeures, à mon avis. La première, c'est la folie, c'est un phénomène général. Donc, même si elle n'est pas un phénomène qui confond toute subjectivité particulière, elle a une expérience qui apparaît dans l'horizon d'une façon générale, c'est-à-dire l'élément de constitution sociale de l'expérience, que la raison, doit à sa façon, pas seulement intégrer la folie, mais doit reconnaître la folie comme un fond général d'expérience. Et ça, c'est important. C'est important parce que, d'une certaine façon, la seule possibilité pour la raison de constituer un lien social, disons, lien social, une société, une communauté qui soit, disons, la réalisation de la raison, c'est que la raison passe par une métamorphose de ses formes. Et ça change, parce que ça change l'expérience du temps, ça change l'expérience de l'espace, ça change l'expérience de quel est l'agent. Quel est l'agent de l'action, hein? Qui agit exactement, hein? Et comme ce n'est pas la conscience individuelle qui agit chez Hegel, comme c'est une temporalité multiple incarnée dans un processus, qui dans ce cas il appelle Geist, hein? Alors il y a tout un changement absolu des formes de la pensée qui est précondition donc, pour qu'une expérience ait la raison. Et là, la folie est un élément fondamental. Il y a deux éléments. Hein. La folie et la mort. Il faut que la conscience ait l'expérience de la folie et ait l'expérience de la mort. Hein. Et ces deux expériences, elles ont au moins un élément en commun. Hein, qui, d'une certaine façon, elles sont la présence du fond indéterminé des formes qui doivent d'une certaine façon être organisées par la pensée, hein. Lorsqu'il y a, Hegel parle bien, c'est quoi la dialectique sauf la, disons, l'esprit des contradictions organisées, hein, et ça semble une boutade d'une certaine façon, hein, mais je crois qu'il a une idée importante là, c'est que cette organisation, elle se donne à partir de la reconnaissance d'un fond, disons, en forme de la pensée.
Hein. Est-ce qu'on peut donner un exemple de ça? Cet exemple, l'exemple auquel, enfin, auquel je pense quand tu dis cela, c'est l'analyse par Hegel dans son analyse de la pièce Antigone, l'analyse du fait que, au bout du bout, Antigone et Créon, le roi, qui sont complètement opposés, se rejoignent dans la mort, dans la destructivité, qui est ce moment de chaos qu'aucun individu isolément n'affronte. Hein, puisque bon, Antigone, elle choisit la mort et elle choisit de s'opposer à Créon. Et Créon, en principe, c'est les lois du jour contre les lois de la nuit, sauf qu'à la fin de la pièce, et tout ça, Hegel le décrit, hein, à la fin de la pièce, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est Thèbes,
oui,
les Thébains, et c'est le cœur qui le dit, les Thébains lâchent Créon, si bien que Créon, qui était celui qui devait assurer les lois du jour contre la menace d'Antigone qui d'emblée mettait en jeu la mort, eh bien, il aboutit aussi au déclenchement de la mort dans la cité par la sédition. Et à ce moment-là, Hegel dit, c'est le moment où dialectiquement ils se rejoignent,
oui,
dans cette indétermination où la différence de leur position dans l'opposition n'est que provisoire. Tu commentes beaucoup le Abgrund, qui veut dire à la fois le fondement et le chaos. C'est ce moment du chaos. Voilà à quoi ça me faisait penser.
Non, mais en fait, c'est un bon exemple. Il y a une autre dimension aussi intéressante dans cette commentaire d'Antigone. C'est, voilà, on a une contradiction classique, hein, entre deux positions. À propos de bien, qu'est-ce qu'on fait avec les corps de Polynice, hein, si on peut l'enterrer ou pas, hein. Donc, la contradiction, elle semble être une contradiction entre la loi de la famille et la loi de la polis. Hein. C'est-à-dire, Antigone qui dit bien, c'est mon frère, donc j'ai des droits de l'enterrer. Et Créon qui dit non, mais la polis, elle demande une différence entre ce qui, disons, l'ami, l'ennemi. Hein. Et l'ennemi ne peut pas être reconnu par la polis en tant qu'un sujet. Hein. Mais là, l'intéressant, c'est que la contradiction, bien là, c'est un très bon exemple pour montrer qu'est-ce que signifie surmonter une contradiction. Parce que la contradiction, elle implique la destruction de deux positions. Hein. C'est-à-dire, la position d'Antigone sera détruite et la position de Créon aussi. Hein. Mais pour qu'il puisse apparaître l'émergence d'une chose qui était totalement impossible à penser jusqu'à là. Est impossible à réaliser, à incarner jusqu'à là, qui c'est l'émergence d'une idée de vraie universalité. Parce que je crois que la question fondamentale, en fait, c'est là, pour Hegel, c'est la réponse qu'Antigone donne à Créon lorsque Créon dit mais vous ne connaissez pas la loi que j'avais prononcée. Et elle dit je ne suis pas la loi de la polis. Elle fait un truc un peu pascalien, genre, dit, mais c'est quoi la loi de la polis? Ici, jusqu'aux Pyrénées, c'est vrai, après les Pyrénées, c'est faux. Donc, la loi de la polis est totalement contextuelle. Je suis la loi de Dieu qui n'a pas de temps, qui n'a jamais été prononcée, n'a pas d'espace. Et cette loi, elle donne, donne la condition universelle pour que tout sujet, n'importe ce qu'il a fait, il a le droit de la mémoire. Donc, et c'est intéressant, c'est que, d'une certaine façon, bien, ça, c'est l'émergence de quelque chose qui n'était qui n'était pas pensable dans ce système de communauté sociale qui était la polis grecque. Hein. C'est-à-dire, c'est un peu la question fondamentale de Sophocle. Hein. Dans plusieurs pièces, par exemple à Jacques, c'est la même chose. Hein. Lorsqu'Ajax est mort, hein, il a aussi la question, bien, qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Si on enterre ou pas, hein, c'est toujours un peu cette position d'universalité qui se pose. Hein. Alors, vous voyez, la contradiction, elle ne se résout pas dans ce sens fort du terme. Elle détruit les deux positions pour qu'une émergence nouvelle puisse apparaître. Elle est un système de destruction et d'émergence. Hein. Et là, d'une certaine façon, on peut penser le rapport folie-raison de la même façon. C'était pas que la raison, d'une certaine façon, organise la folie. La figure de la raison jusqu'à là, elle est détruite, ainsi que la folie, hein, pour que l'émergence d'une autre forme de pensée puisse se produire. Hein.
Je me demande si ça que tu fais. Dit d'une manière peut-être un peu vulgaire ou simple, c'est une dialectique de la raison au sens de Adorno et von Kramer, mais plus optimiste, je dirais, au sens que et cette dialectique de la raison, qui est une dialectique de la folie, produit une libération et pas la catastrophe.
Ouais, mais je dirais deux choses. D'abord, normalement, disons, la dialectique de l'Aufklärung de Dornier, donc, elle est fondée surtout sur les rapports raison-mythe. Hein. Mais c'est vrai que le mythe, il apparaît un peu dans l'espace de la raison moderne comme l'une des figures de l'irrationnel. Hein. Et on pourrait, disons, radicaliser cette procédure en élevant la figure du mythe, en mettant la figure de la folie, hein, comme une des figures de l'irrationnel. Hein. Et d'autre part, ma lecture de la dialectique de l'Aufklärung est une lecture double. Hein. J'aurais la tendance à dire la dialectique de l'Aufklärung, c'est seulement un moment de la critique. Elle est impensable sans la dialectique négative, au moins dans le cas d'Adorno. Hein. Parce que dans le cas, la chose va vers notre chemin. Donc la dialectique négative, elle est à sa façon, ça peut sembler un peu bizarre, mais à sa façon, elle est une possibilité même, disons, de résolution de la dialectique de la raison. Donc, parce que ça donne un peu l'impression comme c'est un mouvement, disons, où les moments positifs rationnels disparaissent. Ça donne l'impression qu'il n'y a pas de totalité, il n'y a pas de synthèse. Hein. J'insisterai sur le contraire. La question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'il faut détruire pour que l'émergence d'une synthèse, d'une forme telle qu'elle n'a pas été socialement expérimentée jusqu'à là, puisse advenir. Hein. Et là, cette réponse ne peut être possible qu'à travers une articulation où la dialectique négative, elle apparaît. C'est vrai que ça semble un peu bizarre, mais bien en fait, l'histoire de la philosophie a pas mal de choses bizarres. Ce ne sera pas la première. Hein. Elle est le moment positif du processus, parce qu'elle est le moment productif du processus. Qui la production doit passer par les structures de négation, j'insisterai, bien, s'il y a une chose que la dialectique a montré, c'est exactement ça. Comment la négativité elle peut être une dimension fondamentalement productive des objets et des formes d'expérience.
Là non plus, on n'est pas d'accord. Hein.
Ouais.
Parce que...
Ça ne m'étonne pas du tout.
Enfin...
Il ne suffit pas de dire, comme je l'ai dit d'ailleurs sur l'exemple de Créon et d'Antigone, que les positions de Créon et d'Antigone se rejoignent dans la mort, précisément quand elles se détruisent chacune, et que donc la vérité du truc, c'est la négativité absolue qui dissout toutes les positions fixes. Il ne suffit pas de dire ça pour essayer de comprendre comment ça se transforme, tu dis c'est la première fois qu'on a pensé l'universel. Moi, ce que je pense, c'est que même si qu'il faut pour que ça se transforme des facteurs contingents, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de la négativité simplement par la négativité. On peut toujours dire après coup qu'il y a eu l'émergence de quelque chose de nouveau. L'émergence de quelque chose de nouveau, ça suppose de la contingence, c'est-à-dire des facteurs extérieurs.
Ouais, non, mais...
Que la négation de la négation, c'est-à-dire la négation sur fond déjà d'une première négation, ne suffit pas, dont la négation de la négation ne suffit pas à montrer la possibilité et l'effectivité. L'effectivité déterminée, finie, contingente.
Ok. Non, mais c'est drôle parce que là, je crois qu'on est d'accord, c'est-à-dire, je ne crois pas que la fonction de la négativité soit celle-là. Par exemple, si on revient à l'exemple d'Antigone, la fonction de la négativité est donc les soutiens de l'impossibilité. C'est-à-dire, il faut que les positions soient impossibles. Hein. Il faut, par exemple, une position comme la position d'Antigone soit totalement impossible, c'est-à-dire soit radicalement négative par rapport à toutes les possibilités de détermination dans l'espace social où elle se présente. Et cette impossibilité, elle est fondamentale pour qu'un nouveau régime de possibilités se produise. Donc, c'est vrai, la négativité, elle est le processus, tout simplement. Mais ce processus, comme tu as bien insisté, il demande aussi une actualisation contingente. Et c'est vrai, dans...
Oui, mais ça change l'idée de la raison.
Non, mais ça, par exemple, si on prend l'exemple d'Antigone, c'est la contingence, c'est la mort de...
On pourrait aussi prendre des exemples contemporains, la situation du Brésil ou la situation de la France, de deux manières différentes. C'est pas la même situation.
Mais tu vois, qu'est-ce qui se passe? Les rapports à la contingence, la mort de mon frère, c'est l'élément contingent du processus. Cette contingence, elle doit être élevée d'une certaine façon à une position impossible. Impossible à être pensé dans la communauté telle qu'elle se constitue. Enterrer Polynice est impossible.
Oui, mais ça, c'est le passé de la contradiction. La mort de Polynice, la mort du frère, ça a déclenché quelque chose. Mais ce que je dis, c'est que, certes, dans un phénomène politique, il y a sans doute égale à raison, ou historique, il y a sans doute ce moment d'une négativité qui dissout la pertinence de chaque position, mais pour que ça passe à autre chose, il faut sortir de simplement l'apologie de la négativité.
Oui, mais je dirais, il faut que la contradiction soit productive. La contradiction là, c'est la contradiction
Oui, mais c'est pas la contradiction en elle-même qui peut dire en quoi elle est productive quand elle tourne bien.
Oui, mais peut-être la question c'est pourquoi contradiction? Parce que vous voyez, par exemple, la question c'est élever la mort de Polynice élever l'enterrement de Polynice à une contradiction insupérable, insupportable, et insupportable pour la polis. C'est-à-dire, c'était la façon de détruire la polis. Mais pourquoi il faut détruire la polis? Parce que la polis, elle est fausse. C'est une vie fausse. C'est une vie qui est marquée par l'extériorité absolue par rapport à tout ce qui est non humain. C'est-à-dire, c'est la polis qui a expulsé Oedipe. C'est la polis qui est maintenant expulse Polynice de la position de humain, qui expulsait Oedipe de la position de humain, qui va expulser Antigone de la position de humain. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une contingence qui produise un genre de contradiction générale, pas seulement locale.
Radicalise la contradiction.
Elle radicalise jusqu'à la généralité, jusqu'au point où la polis n'est plus surmontable. La polis sera détruite.
Ben, il faudrait voir historiquement, parce que c'est les historiens qui dans l'intelligence de ça, c'est-à-dire du fait que quand une contradiction s'est suffisamment creusée, ce qui la résout, c'est quoi ? C'est pas la puissance logique de la contradiction à elle toute seule.
Non, mais de toute façon, je dirais, ok, c'est un fondement marxiste en paix générale. C'est l'idée que le seul genre de conflit qui puisse produire une transformation, c'est une contradiction généralisée. C'est un élément qui, du point de vue des possibilités d'intégration dans la vie sociale telle qu'elle se donne aujourd'hui, est impossible, est totalement impossible. Donc, elle oblige un genre de chute qui est la base d'un processus de transformation révolutionnaire.
Oui, mais ce n'est pas forcément au cœur de la société que ça se produit. Ça peut être sur ses marges.
Ça peut être sur ses marges, c'est vrai.
Ouais. Sur détermination, ouais. Concept freudien, ça existe.
Oui, non, c'est possible. Mais c'est qui n'efface
pas. La détermination, elle fait intervenir des facteurs contingents par rapport à ce qu'on appelait dans l'histoire du marxisme la contradiction principale.
Oui, oui.
Donc,
mais ça n'efface
pas. Radicaliser ça.
Oui, mais ça n'efface pas la fonction de la contradiction généralisée.
Elle est théorique, la contradiction généralisée. Elle est une manière de décrire le moment où ça se défait. Mais elle ne donne pas la solution.
Non, elle est pratique.
Là-dessus, on est tout à fait d'accord.
Je crois donc qu'on arrête.
Est-ce que les enjeux de la discussion sont clairs ? Vas-y.
Je reviens un petit peu autour de ma question, mais je vais la faire autrement. Est-ce que le fond informe de la pensée.
On t'entend mal là, plus près du micro, ou je sais pas quoi. Peut-être il n'est pas.
Plus proche.
Peut-être simplement plus proche.
Bon, comme ça ?
Oui.
Est-ce que le fond informe de la raison se manifeste toujours comme folie ? Ce qui me tracasse dans la manière de présenter les choses, c'est est-ce que la folie saute aux yeux, si je puis dire ?
La folie
saute aux yeux.
Saute aux yeux.
Est-ce que c'est toujours aperçu comme folie ? Ou est-ce que, dans certains cas, ces métamorphoses de la raison produisent des effets.
Par exemple.
Je pense par exemple en science.
Oui.
C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des. Disons, est-ce que sous ce terme de folie, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de structure qui est encore plus générale que folie ? C'est ça ma question. Donc folie ne serait qu'une des figures, certes très importante, etc. Mais qui ne serait pas forcément aperçu et apprécié comme folie.
Ouais, je vois. Mm-hmm. Ouais, non, j'aurais la tendance à dire que la folie, c'est peut-être le cas le plus extrême. C'est le cas le plus extrême des expériences de l'extériorité de la raison. Il doit être le cas le plus extrême. Parce que c'est le cas, c'est l'expression plus claire d'une forme de pensée parce qu'il y a une structure de forme de pensée dans la folie qui a perdu toute possibilité d'être reconnue en tant qu'objectif. Je dirais, par exemple, prenons la critique que Derrida fait à Foucault à propos de l'histoire de la folie, du problème de la folie chez Descartes, où il va insister énormément contre Foucault. Non, mais il y a de la folie dans la méditation cartésienne. C'est la figure même de Malangénie. C'est-à-dire, pourquoi c'est la figure de Malangénie ? Parce que c'est la figure de l'absence possible, de toute absence absolue, d'un rapport entre, disons, ma raison et la raison. Entre ce qui apparaît comme clair et évident pour moi, et ce qui est clair et évident du point de vue objectif. Et là, peut-être c'est pour ça dans l'horizon philosophique, la folie, elle est apparue comme le cas le plus extrême de ce que la raison doit, disons, reconnaître pour pouvoir opérer des transformations radicales de ces formes de ces catégories. Bien sûr, il y a d'autres processus, hein, mais ça, disons, l'intérêt de la folie, c'est que c'est un processus où la raison, elle se trouve dans son, disons, elle se confronte avec son anti-image absolue. Disons, la folie, c'est... Et ça, c'est intéressant, parce qu'on pourrait même dire c'est la folie, c'est l'invention, que la folie, c'est l'invention philosophique d'une anti-image de la raison, hein, au sens le plus fort du terme. Hein.
Est-ce que tu penses à un impensable dans les sciences? C'est-à-dire, s'il n'y a pas de confrontation à un impensable, il n'y a pas de nouvelle forme de pensée?
C'est-à-dire qu'après, ce qui peut se produire, c'est que, à son tour, le terme de contradiction devient lui-même à refigurer. Parce que, effectivement, on peut se promener entre le différent, entre la contradiction et l'antinomie, où les choses ne sont pas forcément faciles à bien identifier et à bien discerner.
Ouais, mais l'intérêt de la folie, c'est que la folie n'est pas un impensable. Elle est la pensée qui met en question toutes les structures de la pensée. C'est un peu comme la paranoïa, c'est-à-dire il y a une structure de la pensée, mais elle est constituée d'une façon telle que celle-là de la validité, bien alors la pensée telle qu'elle est...
Oui, mais il y a peut-être d'autres domaines de l'existence ou de la pensée où il s'agit d'impensable et non pas de folie. Que la folie ne soit pas l'impensable, ne soit pas l'expérience de l'impensable, ok, dans la perspective, en tout cas, qui est celle de Hegel, mais il y a peut-être d'autres affrontements à ce qui risque de détruire la pensée que celle de la folie, qui risque de détruire, mais qui est en même temps la condition de... C'est ça qui est compliqué.
Je sais pas, bataille parlée de l'érotisme et de sacré, mais ce sont des événements, des faits sociaux. D'une certaine façon.
Oui, mais il allait chercher Hegel pour trouver.
Ouais, ouais, ouais.
On s'arrête? Merci
okay,
beaucoup.
Donc merci beaucoup pour votre présence.
Et pour votre discussion.